Au cinquième étage se trouve la salle de réunion de la RPS, le secrétariat, ainsi que Carlos Eliasson, le chef de la Rikskrim. La porte est entrebâillée, mais comme d'habitude, plus fermée qu'ouverte.
Entrez, entrez, dit Carlos.
Au moment où Yona passe la porte, un mélange égal de joie et d'inquiétude parcourt le visage de Carlos.
J'allais justement nourrir mes petits, dit-il en tapotant le bord de l'aquarium.
Il observe en souriant les poissons qui nagent vers la surface et saupoudrent la nourriture au-dessus de l'eau.
Là, chuchote-t-il.
Carlos indique la direction au plus petit des poissons paradis, Nikita, puis se retourne et dit aimablement
« La morte commissionne demande si tu peux jeter un œil au meurtre de Dalarna. »«
Ils s'en sortiront tout seuls, » dit Yona.
« Ils ne semblent pas vraiment de cet avis. Tommy Kofed est venu me voir pour... »«
De toute façon, je n'ai pas le temps, » interrompt Yona.
Il s'installe en face de Carlos. Une odeur de cuir et de bois parfume la pièce. Les rayons du soleil dansent dans l'aquarium.
« Je veux m'occuper de l'affaire Tumba, » dit Yona sans détour.
L'inquiétude s'empare un instant du visage ridé et aimable de Carlos.
« Peter Neslund vient de me téléphoner. Il a raison, ce n'est pas une affaire pour la Rikskrim, »
avance-t-il délicatement.
« Je pense que si, » s'obstine Yona.
« Seulement si le recouvrement est lié à un crime organisé plus important, Yona. »
« Ce n'était pas un recouvrement. »
« Non ?»«
Le meurtrier s'est attaqué à l'homme en premier, » affirme Yona. « Ensuite, il s'est rendu à la maison pour en finir avec la famille. Il voulait tuer toute la famille. Il va retrouver la fille et il va retrouver le garçon si jamais il survit. »
Carlos jette un regard rapide sur son aquarium, comme s'il redoutait que les poissons n'entendent ces atrocités.
« Ah bon ? » dit-il d'un air sceptique. « Comment le sais-tu ? »
« Parce que les pas dans la maison étaient plus courts. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ?»
Yona se penche et dit
« Il y avait évidemment des traces de pas partout. Je n'ai rien mesuré, mais ceux dans les vestiaires m'ont paru... Ouais, plus vifs. Et ceux dans la maison trahissaient plus de fatigue. »
« Ça y est, » dit Carlos d'un air las. « Voilà que tu recommences à tout embrouiller. »«
N'empêche que j'ai raison, » répond Yona.
Carlos secoue la tête.
« Cette fois-ci, j'en doute. »«
Je te dis que j'ai raison. »
Carlos se retourne vers les poissons.
« Sacré Yonalina, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi entêté. »«
Alors il faut renoncer même quand on sait qu'on a raison ?»
« Je ne peux pas court-circuiter les ordres de Peter et te mettre sur l'affaire sur la foi d'un simple pressentiment. »«
Si, tu peux. » »«
Tout le monde pense qu'il s'agit d'un recouvrement de dettes de jeu. »«
Toi compris ?»«
Oui, figure-toi. » »«
Les empreintes étaient plus vives dans les vestiaires parce que l'homme a été tué en premier, » persiste Yona.
« Tu n'abandonnes jamais, pas vrai ?»
Yona hausse les épaules et sourit.
« Autant appeler directement le service médico-légal, » grommelle Carlos en prenant le téléphone.
« Ils te diront que j'ai raison, » répond Yona les yeux baissés.
Yonalina sait qu'il est quelqu'un d'opiniâtre, mais il sait aussi qu'il a besoin de son opiniâtreté pour avancer. Peut-être que tout avait commencé avec le père de Yona, Irie Lina, patrouilleur de police dans le district de Mersta. Il se trouvait dans l'ancienne rue d'Uppsala Vegen, un peu au nord de l'hôpital Lewenstrimska, quand le central avait reçu un appel et l'avait envoyé rue Amarbivegen, dans le Vesby d'Upland. Un voisin avait alerté la police. Les enfants Olson prenaient encore une raclée. En 1979, la Suède avait été le premier pays au monde à interdire les châtiments corporels, et la police avait reçu les directives de la RPS incitant à prendre la nouvelle loi au sérieux. Irie Lina avait conduit sa voiture de police jusque dans la cour de l'immeuble et s'était arrêté devant la porte. Il attendait son collègue, Yoni Andersen. Au bout de quelques minutes, il l'avait appelé. Yoni faisait la queue devant la baraque à saucisses Mamas. Et puis, de toute façon, avait-il lancé, un homme avait bien le droit de montrer qui était le chef de temps en temps. Irie Lina était un homme taciturne,
Ils savaient que le règlement exigeait qu'ils fussent deux pour ce genre d'intervention, mais ils n'avaient pas insisté. Ils n'avaient rien dit, bien qu'ils sût qu'il était en droit d'attendre du soutien. Ils ne voulaient pas insister. Ils ne voulaient pas avoir l'air d'un lâche, et ils ne pouvaient pas attendre. Il avait pris l'escalier jusqu'au quatrième étage et sonné à la porte. Une fillette aux yeux terrifiés était venue lui ouvrir. Il lui avait demandé de rester dans la cage d'escalier, mais elle avait secoué la tête et était retournée dans l'appartement en courant. Il l'avait suivie et était entrée dans le salon. La fillette tapait sur la porte du balcon. Irie avait alors vu qu'un petit garçon se trouvait dehors, seulement vêtu de sa couche. Il devait avoir 2 ans. Irie s'était précipité de l'autre côté de la pièce pour faire rentrer l'enfant, mais avait aperçu l'homme ivre trop tard. Il était assis dans le canapé près de la porte, le visage tourné vers le balcon. Irie avait eu besoin de ses 2 mains pour ouvrir le verrou et tourner la poignée. Ce n'est qu'en entendant le clic du fusil de chasse qu'il s'était arrêté. Le coup était parti. Une grappe de 36 petites billes de plomb avait transpercé sa colonne vertébrale. Il était mort presque sur le coup. Yona, alors âgée de 11 ans, et sa mère Ritva avaient quitté l'appartement lumineux qu'ils occupaient dans le centre de Mersta et s'étaient installés dans le 3 pièces de sa tante dans le quartier de Frerell à Stockholm. Après le collège et 3 ans au lycée de Kungsholmen, il avait fait sa demande d'admission à l'école nationale de police. Il repense encore souvent à son groupe d'amis, aux promenades à travers les grandes étendues d'herbe, au calme qui avait régné pendant sa période de stage et à ses premières années d'agent de police. Yona Lina a eu sa part de travail de bureau. Il s'est occupé aussi bien des problèmes d'égalité des chances que des questions syndicales. Il a fait la circulation pendant le marathon de Stockholm et lors de centaines d'accidents de la route. Il s'est senti gêné lorsque des hooligans tracassaient des collègues féminines avec leurs chansons qui résonnaient dans les rames du métro.
« Qu'est-ce que tu fais avec ta matraque fliquette? Ça rentre et ça sort !»
Il a trouvé des cadavres d'héroïnomanes aux plaies putrides, fait la morale à des chapardeurs, aidé des ambulanciers avec des poivrons couverts de vomi, parlé avec des prostituées tremblantes en état de manque, à des malades du sida, à des personnes terrifiées. Il a rencontré des centaines d'hommes ayant maltraité leurs femmes et leurs enfants. Toujours le même schéma. Sous, mais maître d'eux. La radio à fond et les stores baissés. Il a arrêté des conducteurs pour excès de vitesse et en état d'ébriété, saisi des armes, de la drogue et de l'alcool de contrebande. Un jour, en arrêt maladie pour un lombago, tandis qu'il se promenait pour ne pas s'ankyloser, il avait vu un skinhead tripoter les seins d'une femme musulmane devant l'école Klastorps. Une douleur atroce dans le dos, il avait poursuivi le skinhead au bord de l'eau, à travers le parc, sur le pont Westerbrunn, au-dessus de l'eau et de l'îlot Langholmen, jusqu'à Cedermalm, et ne l'avait interpellé qu'au feu des Galitzgatan. Sans une véritable volonté de faire carrière, Yona Lina a gravi les échelons. Il apprécie les tâches difficiles et ne renonce jamais. Depuis 9 ans, il est inspecteur principal à la Rikskrim de Kungsholmen. Son insigne est orné d'une couronne royale, ainsi que de 2 rangées de feuilles de chêne. Mais il lui manque la barrette de divisionnaire. Le pouvoir, quelque forme qu'il prenne, ne l'intéresse tout simplement pas, et il refuse de rejoindre la Rigsmordkommissionen. Ce matin de décembre, Yona Lina est assis dans le bureau du chef de la Rikskrim. Il ne ressent toujours pas de fatigue après la longue nuit à Tumba et à l'hôpital Karolinska, tandis qu'il écoute Carlos Eliasson parler avec le médecin légiste en chef du service médico-légal de Stockholm, le professeur Nils Ohlen, alias l'aiguille.
Non, j'ai simplement besoin de savoir quel a été le premier lieu du crime, dit Carlos. Je comprends, dit-il après avoir écouté un moment. Mais à ce stade, qu'en pensez-vous?
Yona se renfonce dans sa chaise, gratte ses cheveux blonds et bouriffés, et regarde le visage du chef de la Rikskrim s'empourprer peu à peu. Il écoute la voix monotone de l'aiguille, se contente d'un simple hochement de tête en guise de réponse et raccroche sans dire au revoir.
Ils
ont constaté que le père a été tué en premier, complète Yona.
Carlos acquiesce.
Qu'est-ce que j'avais dit? Lance Yona en souriant.
Carlos baisse la tête et se racle la gorge.
« D'accord, tu es chargé de l'enquête préliminaire, » dit-il. « L'affaire de Tumba est à toi. »«
Bientôt, » répond Yuna sérieusement.
« Bientôt ?»«
D'abord, j'aimerais entendre une chose. Qui avait raison ? Qui avait raison, toi ou moi ?»«
Toi !» crie Carlos. « Nom de Dieu, Yuna, c'est quoi ton problème ? Tu avais raison, comme d'habitude. »
Yuna cache un sourire dans sa main et se lève. « Maintenant, je dois interroger mon témoin avant qu'il ne soit trop tard. »«
Tu vas interroger le garçon ?»«
Oui. »«
Est-ce que tu as déjà parlé avec le procureur ?»« Je n'ai pas l'intention de remettre mon rapport d'enquête préliminaire avant d'avoir un suspect, » dit Yuna. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais simplement qu'il serait bon d'en toucher un mot au procureur si tu comptes parler avec un garçon aussi grièvement blessé. »
« D'accord. Tu as de bons conseils, comme d'habitude. Je vais passer un coup de fil à Jens, » dit Yuna en sortant.